Bonjour à tous. La Grande Table pose aujourd'hui en son centre une caméra. Dans l'actualité des idées, à partir de 12h55, la vidéosurveillance, quelle réalité au-delà du clivage sécurité-liberté? On en parlera avec notre invitée, la sociologue Élodie Lemaire, qui publie L'œil sécuritaire, un essai enquête où elle nous rappelle que la vidéosurveillance n'est pas une entité autonome à ceux qui en font usage. Mais d'abord, veilleur de jour, veilleur de nuit, celui qui voit dans sa caméra un prétexte pour être présent est notre invité. Amos Gitaille est là, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. Son nouveau film, Un tramway à Jérusalem, sort en salle demain, ainsi que La caméra est un fétiche, filmé au Moyen-Orient chez Fayard, le texte de sa leçon inaugurale donnée l'an passé au Collège de France, premier cinéaste à y occuper la chaire de création artistique.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
Quelque chose comme 40 ans de cinéma et 90 films régulièrement en sélection de Cannes à la Mostra et sujet de rétrospective du Centre Pompidou à Paris au MoMA de New York. En immersion dans son temps, il avance en équilibriste sur les frontières du Moyen-Orient, conjuguant témoignages et recherches formelles, stylistiques, depuis House, La Maison et Journal de Campagne, cinéaste de l'exil, avec la trilogie du Golem, Des Frontières, de Free Zone à Terre Promise, Des Villes, avec Devarim, Yom Yom et Kadosh, et de La Mémoire, de Tzili, au dernier jour d'Itzhak Rabin, sorti un an après. En 2017, à Cannes, il nous avait laissé à l'ouest du Jourdain. Il nous revient par la fiction avec un tramway à Jérusalem.
Country is really fantastic.
Forgive me, yes. Mr. Chelsea, but what do you have against our army?
Jérusalem, à mesure qu'on la quitte, s'enfonce dans la verdure des oliviers. Je croyais la revoir encore et lui dire adieu. Et quand je me suis retourné, elle avait complètement disparu.
Vous lui-même fallait faire un mal et un écrasage, je m'en viens.
C'est qu'il m'a dit d'abord la kirki, mais c'est ce que je pourrais bien souhaiter.
תורה, מה אתם עושות ביחד?
שום דבר פוליטי.
כן, אנחנו פשוט נוסעות על אותה רכבת. שום דבר סמלי.
Bonjour Amos Gitaille.
Bonjour.
Un tramway où toutes les langues se mélangent et les histoires se croisent, des solitudes, des rencontres aussi. On y parle politique, religion, mais aussi amour et séparation. C'est un portrait de la société israélienne aujourd'hui, telle que vous la croisez, vous, tous les jours, dans votre tramway.
C'est plutôt un microcosme, c'est plutôt presque un projet utopique, presque utopique, que le quotidien va construire la paix, c'est-à-dire que tout le monde... Ils sont coincés dans mon tramway à Jérusalem, dans cette boîte sardine dans laquelle il y a exceptionnellement des femmes assises à côté des ultra-orthodoxes et ils parlent, qui n'existent pas dans le réel, avec des Palestiniens à côté des Israéliens, mais aussi avec des aspects quotidiens dans lesquels il y a aussi le conflit, l'histoire d'amour, d'amour brisé, c'est-à-dire c'est le tissu qui essaye de sortir des clivages et des caricatures un peu trop simplistes. Alors c'est mon tramway à Jérusalem.
Et dans ce monde utopique, vous mettez aussi des silences, vous mettez de la parole, des mots, des chants et des textes comme celui que lit Mathieu Amalric, en père français de passage à Jérusalem, qui reprend les mots de Flaubert à l'époque, Amos Gitaille. Il y a un jeu sur la parole, un jeu sur les langues qui là se mélangent et qui n'ont même plus besoin en fait de traduction pour se faire comprendre. Hein.
C'est ça la musique que j'aime beaucoup à Jérusalem. Il y a une sorte de polyphonie des langues d'origine. C'est une ville qui a toujours été divisée, mais ça contribue à sa richesse. Et c'est une sorte de site d'archéologie humaine depuis, il dit qu'a priori depuis 3000 ans. Et cette toute petite ville de peut-être 1 km² quand même a réussi ici en ville. On peut voir une réflexion autonome d'indoctriner presque 2/3 de la planète avec des idées très fortes de 3 religions monothéistes qui radiaient partout. Alors, Jérusalem, la ville, elle mérite un film qui va parler de cette polyphonie, oui.
Mais on la voit assez peu, hein, cette ville. On regarde assez peu par la fenêtre. On est très concentré. En tout cas, votre caméra nous montre surtout ce qui se passe à l'intérieur du tramway.
Parce que pour moi, la ville, c'est le visage des gens. C'est comme chez Cassavetes, Faces. C'est-à-dire les visages, les regards des gens, c'est Jérusalem. C'est pas strictement les murs, l'église, les synagogues, les mosquées. Mais c'est aussi les gens, juxtaposition de presque 7 ou 8 langues, l'hébreu, l'arabe, le yiddish, l'anglais, le français, l'italien, l'allemand, le ladino, mais aussi effectivement des comédiens de toutes les origines possibles, et que le plateau devient le lieu de raconte.
Il y a le choix, une fois encore, dans ce tramway, d'une unité de lieu, et c'est presque un retour à vos débuts, à la maison, à House, ce film que vous avez réalisé en 1980. Cette fois, le tramway traverse donc Jérusalem d'est en ouest, à Amos Gitai. On pense aussi, et bien sûr, un peu à la voiture studio de l'Iranien Abbas Kiarostami dans Le goût de la cerise, puis d'Antenne, qui a inspiré lui-même Jafar Panahi pour son Taxi Téhéran, ou aussi au bar de l'Israélien Assi Dayan dans La vie selon Agfa. Ce principe de l'unité de lieu, c'est à la fois un dispositif formel, cinématographique, et on vous imagine, vous, planqué, allongé quelque part avec votre caméra dans un coin du tramway, un peu à l'étroit, en train de capter ses visages. Mais ce dispositif, il est mis au service de quelle idée ?
C'est-à-dire le microcosme symbolique qui existe aussi dans le film House, mais aussi d'autres films que j'ai fait comme Ananas et des autres, c'est-à-dire qu'on prend un objet, ou une maison, ou effectivement une wagon de tramway qui devient la synthèse de tout cette... Il propose le raconte. Moi, je trouve que même pour avancer des sorties de ce conflit infernal, la chose qui va sortir, c'est le quotidien. C'est ni le cocktail party des grands dirigeants politiques, ni le discours officiel, c'est plutôt le quotidien. Et une chose qui existe un peu dans ma ville natale, qui va être le sujet, comme ça je peux dévoiler mon prochain film, qui va tourner d'ailleurs dans un bar à Haïfa. Et Haïfa, c'est la seule ville d'Israël dans laquelle il y a cette mixité, il y a cette mélange, et tout le film va passer dans un bar, et là, tout le film passe dans un tramway. Alors je suis en train de construire une sorte de série de microcosmes, de métaphores.
Mais c'est un dispositif qui vous a contraint ou qui vous offre une certaine liberté dans la contrainte?
Non, c'est surtout une paramètre qui, comme ex-architecte, qui nous laisse stocker dans cette boîte de sardines, très serrée, avec le grand travail d'Éric Gauthier pour l'image, des séries de figures avec leur discours, et de les mettre ensemble, de créer une sorte de relation aussi spatiale, pas seulement des discours et des narrations.
Deux jeunes femmes attendent le tram, l'une est brune et l'autre est blonde. Elles sont jeunes toutes les deux et elles fument en attendant.
Non. אני פלסטינית עם דרכון הולנדי.
אני נסיעה הולניה. גרמניה, ישראלית ויהודיה כמובן.
התסביך הפלסטיני החדש, לאסוף כמה שיותר זהויות.
חשבתי שזאת אסטרטגיה יהודית.
Deux jeunes femmes. L'une dit « je suis palestinienne avec un passeport hollandais ». L'autre « je suis russe, polonaise, allemande, israélienne et juive, bien sûr ». Le nouveau syndrome palestinien, c'est d'accumuler les identités, dit l'israélienne. Je pensais que c'était une stratégie juive. Il y a cet échange. Elles vont ensuite entrer dans le tram et poursuivre leur discussion, être contrôlées. Et se pose à travers elles et ces passeports qu'elles doivent donner ou ces cartes d'identité, toute cette question des identités cumulées, au fond de qui on est aujourd'hui en Israël. Il fallait que cette question de l'identité figure dans le film Amos Gitai. Elle est toujours aussi importante aujourd'hui, justement parce que c'est un millefeuille et qu'il est de plus en plus compliqué de dire qu'il en est exactement ou de réduire son identité à une.
De toute façon, toute l'humanité, pas seulement Israël ou Palestine, est composite de gens déplacés à cause des guerres, des réfugiés, des pressions économiques, de l'urbanisme. Toute l'humanité est déplacée et sont en mouvement. Il n'y a plus de happy tribes, de tribus heureux. Alors, le travail de cinéma ou de littérature ou d'art plastique, c'est comment on utilise cette matière humaine, on peut dire, et pour montrer les juxtapositions, de montrer cette sorte de humanité déplacée, mais créer une autre essence moderne, qui n'est pas strictement dans les traditions ni dans les religions, et pour approcher les gens qui sont consumés. Et aussi, il y a le travail de mémoire, il y a le travail de parler de mémoire, parce que la mémoire, il est aussi un agent actif pour changer. Alors, moi, je cherche souvent, parce que des choses qui peuvent aider à réfléchir, parce que je trouve qu'effectivement, la planète a bougé aussi à cause des idées, et pas seulement à cause d'argent ou de mitrailleuses. Il faut injecter des idées, c'est le rôle du cinéma ou de littérature. Il y a cette... comme d'ailleurs dans un texte de Joyce, il y a une sorte de juxtaposition, de série de fragments, de série d'histoires, mais qui sont d'un voisinage. Il y a aussi une grande fatigue du Moyen-Orient, surtout après cette élection qui vient d'être liée à Israël. Les gens, ils sont tristes, ils sont fatigués. Ils cherchent a way out, comment on trouve une façon de sortir de cette façon de recycler le conflit. Oui.
Certains sont tristes, d'autres pas. Ceux qui ont voté dans le sens de cette majorité sont visiblement satisfaits aussi, il faut le dire, de cette élection. Mais vous faites partie de ces voix.
Même celui-là qui voit aller à la prochaine guerre, peut-être ils sont excités, mais moi je partage pas leur point de vue. Oui.
On a reçu récemment autour de cette grande table, Amos Gitai, un cinéaste israélien de cette génération des cadras qui s'est inscrit dans vos pas, comme vous. Il a fait aussi un aller-retour. Il est venu vivre en France. Ici, et il est reparti à Tel Aviv, en Israël. Son film s'appelle Synonyme. Lui, c'est Nadav Lapid. Il a reçu l'Ours d'Or à la dernière Berlinale. Écoutez ce qu'il dit de son identité.
D'abord, moi, je suis entièrement israélien. Je suis ultra israélien. Je l'ai compris une fois que je suis arrivé à Paris. Je me suis dit, sur les Champs-Élysées, alors que je suis entouré de 10 millions de personnes, tout le monde aurait pu remarquer qui n'est pas français ici. Et je ne sais pas si c'était dans ma tête ou pas, mais c'est ça la sensation que j'avais. Et je suis israélien, mais j'aurais aimé que être israélien voudrait dire aussi être en conflit avec votre identité. Je me souviens que j'ai lu une fois une très belle phrase d'un intellectuel italien qui a dit que ma patrie, pour lui, la définition d'une patrie, c'est que votre patrie, c'est la chose auquel vous avez honte. Et je trouve que pour moi, c'est une sorte de clé peut-être de déchiffrer ces questions d'identité et d'appartenance.
Une petite génération vous sépare, Amos Gitai, de Nadav Lapid. Est-ce que vous avez la même perception, le même regard, travaillé par la même histoire et la même mémoire de cette question de l'identité? Est-ce que vous diriez, comme lui, aussi que votre patrie, il faut finalement en avoir honte pour la comprendre?
Vous savez, le cinéma, comme l'autre médium, ils sont des démarches individualistes, c'est pas... C'est bien de lier un aux autres comme une sorte de fake collective, mais je crois que chacun il a son vision.
Quelle est la vôtre là?
Moi, je trouve qu'il faut à la fois aimer et critiquer. Et c'est pas complètement contradictoire parce que je trouve que le meilleur hommage qu'on peut faire à ton autant patrie, même aux gens qu'on aime, c'est d'être critique. Critique, c'est-à-dire, c'est pas mettre des crèmes et des kitsch et des masses de relations publiques, mais aussi parler des idées. Alors, je trouve que chacun avec son façon de regarder cette histoire. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui me touchent là-bas, en Israël. Mais je suis aussi produit des gens qui arrivaient d'Europe. Mon père était architecte à Berlin, de Bauhaus. Ma mère était née là-bas. Alors, on est aussi produit de vecteurs différents. Mais je trouve qu'il faut, il faut parler des idées, pas seulement d'appartenance.
Vous revenez d'ailleurs dans La caméra est une sorte de fétiche, la leçon inaugurale que vous avez donnée au Collège de France sur cet héritage familial, sur la part autobiographique dans vos films, sur l'influence de votre père architecte, dans les pas duquel vous avez marché avant de vous en éloigner un peu, ou plutôt appris à composer autrement avec cet héritage, tout en rappelant que ni l'architecture ni le cinéma ne sont des arts intimes, qu'ils sont l'un et l'autre des créations collectives, que l'un et l'autre servent à traduire des textes en forme au pluriel. Quel rapport entre l'un et l'autre pour aujourd'hui comprendre la manière dont vous construisez aussi vos films?
C'est-à-dire, moi je parle de l'architecture de mon père qui était architecte de Bauhaus parce que je trouve qu'il manque, c'est pas seulement par affinité et par respect aux parents, parce que je trouve que cette architecture d'époque de Bauhaus, elle avait une certaine modestie. Je crois que l'architecture aujourd'hui, elle devient presque strictement une affaire de design, de forme.
De représentation, dites-vous aussi. Hein.
Il faut qu'elle reconnecte aux besoins de base, c'est-à-dire les plus grands architectes du monde en 1920, ils ont participé à un concours à Stuttgart. Il y avait Le Corbusier, Miss Van der Rohe, Gropius, tout celui-là, pour dessiner un appartement de 70 mètres carrés. C'est-à-dire, les grands talents d'architecture, ils sont remis pour faire des gestes à la fois esthétiques, mais qui engagent avec les besoins. Et je crois que l'architecture, comme je parle d'architecture, par exemple, de mon père, mais il n'est pas seul, il y a les gens de son génération, et le besoin de revenir à cet paramètre. Et là, il a une sorte d'électron libre et on va à Qatar, toute cette chose magnifique, mais sans utile. C'est-à-dire, il faut que l'architecture et l'art aussi, et le cinéma...
Nous reconnectent aux besoins de base. Le cinéma aussi.
Oui, il dialogue. Non, pas sans être indoctrinaire, sans être Michael Moore, sans être manipulatif. Mais il faut parler, il faut installer le contexte. Il ne faut pas que ce soit strictement un exercice formel. Il faut parler des idées. Et mon travail depuis très longtemps, c'est ça que je parlais dans les conférences à Collège de France, c'est comment l'aspect civique il est toujours dans les bases de tous les démarches. Kadosh, Kippour, Frison, Kedma, etc. Jusqu'à Tramway à Jérusalem et le petit court-métrage A Letter to a Friend in Gaza, c'est toujours un dialogue avec un contexte, mais à travers cette prisme de cinéma.
Filmer, c'est montrer. Et vous vous posez d'ailleurs la question, comment rester ouvert? Comment ne pas imaginer pour la fiction ou garder pour un documentaire des séquences qui ne vont que dans le bon sens, dans le sens de la bonne cause? C'est l'importance du cadre que vous rappelez. Filmer, c'est prendre une série de décisions qui déterminent non seulement ce qui sera inclus dans le cadre, mais aussi ce qui n'y sera pas. Comment vous avez choisi pour le tramway à Jérusalem, les histoires qui vont défiler dans ce cadre? Est-ce que vous les avez aussi réunies parce qu'elles devaient raconter ensemble?
C'est une sorte de chaîne, de série, à la fois d'œuvres littéraires comme Flaubert, mais aussi des textes d'évangiles par Pippo Del Bono. Moi aussi, Yael Abekassis avec un texte de Hanoch Levin, c'est-à-dire c'est une sorte de chaîne, c'est une sorte de série de plans-séquences. Et aussi, il faut parler de la forme, comme d'habitude, parce que le film est strictement composite, que chaque scène, c'est une sorte de plan. C'est une sorte, il y a des continuités temporelles dans chaque élément. Et c'est avec la musique et les juxtapositions des langues et des discours différents des Israéliens, Palestiniens et des autres, on crée une sorte de voisinage dans cet voyage, dans notre tramway.
Donc chaque séquence, chaque plan séquence vaut pour lui-même, est une histoire en soi, mais réunis tous ensemble, ça nous raconte une autre histoire, ça nous montre autre chose. Et il est aussi là le choix, la subjectivité du réalisateur et du cinéaste, hein, dans cet assemblage, cette composition à travers ces différentes séquences.
Oui, c'est-à-dire c'était effectivement le sujet de quelques conférences des Collèges de France, que c'était un plaisir de voir cette occasion de faire une sorte de petit sommaire intermédiaire des travaux que j'ai fait depuis House, Pineapple, etc. C'est-à-dire comment le cinéma et le langage cinématographique, cette syntaxe de cet médium que je trouve très fort, il peut avoir un rapport pas illustratif, mais une sorte de dialogue entre les performances, les musiques, les montages, les bruits de la ville. Et à Tramway à Jérusalem, il y a tout celui-là. Il y a le bruit de la ville, petit véhicule qui traverse la ville, qui liait le côté palestinien, le Shoafat et Beit Hanina, jusqu'à le Mont Herzl, mais qui oblige par le simple mouvement de lier Jérusalem et de créer une sorte d'espace commun.
Chaque séquence est par ailleurs précédée d'un horaire pour la situer, de l'heure de la scène, avec cette envie de marquer le temps aussi pour vous, tout en l'étirant. C'est ce que vous dites dans cette leçon inaugurale donnée au Collège de France, que le plan séquence est aussi pour vous l'un des moyens cinématographiques les plus subversifs, parce que ce type de plan permet de créer un rythme qui oblige le spectateur à porter un regard différent. Étirer la durée soulève des questions chez le spectateur.
Oui, je crois que c'est-à-dire le Moyen-Orient et le conflit israélo-palestinien est bombardé par des images médiatiques. Et je crois que notre travail comme citoyen, c'est de regarder toutes ces images, si c'est des images qui viennent d'Israël, de la Palestine, de la France, d'Amérique, etc., et de faire une synthèse dans notre façon. Et je crois que la façon qu'on va construire cette lecture, cette compréhension, et va nous amener vers une sorte de compréhension plus profonde. Je crois que malheureusement, les médias et même l'opinion générale, ils montrent des clivages assez dessinés. Et je crois qu'effectivement, la division n'est pas seulement entre les gens angéliques et les... I would say in English, the bastards and angels.
Les salauds et les anges aussi. Hein.
Voilà, parce qu'ils sont tous les deux, peut-être dans proportions différentes. Mais je crois que cette compréhension, on a besoin de la comprendre pour effectivement avancer. Et je crois que l'art ou le cinéma, c'est pas un médium direct pour changer le réel. Le réel est beaucoup plus... beaucoup plus roulante, et c'est vraiment l'action politique qui va changer le réel. Mais l'art ou le cinéma, il peut nous inviter de faire un travail d'interprétation, et c'est ça la démarche.
C'est Roberto Rossellini qui disait qu'il faut créer des mythes hein, sur les hommes, s'exalter sur des choses qui ont du sang et de la chair, et ne pas s'exalter sur une caméra. Vous ne dites pas autre chose à Mosguita, et quand vous comparez la vôtre à un fétiche moderne et païen, un outil que vous ne quittez plus, mais c'est aussi un objet qui vous apporte des chances. Vous êtes quand même prudent par rapport à cet outil, cet instrument. Hein. Vous dites que la caméra est à la fois un filtre et un bouclier. La question de la distance à laquelle on la place de son sujet et finalement à laquelle on se place puisqu'on est l'œil derrière la caméra est aussi essentielle.
Oui, Olivia, je crois que oui.
C'est une réponse simple et efficace. Ouais. Ce qui va me laisser le temps, et ça c'est important aussi, de parler des femmes qui sont dans votre film, parce qu'il y a des actrices et vous les aimez beaucoup, ces actrices, les présentes et les absentes. De Jeanne Moreau à sa mort, vous disiez qu'elle était un oiseau rare, déterminée, courageuse, ironique, haïssant la flatterie vide. Elle avait lu les lettres de votre mère, joué dans votre film Désengagement et dans la pièce La guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres en ouverture d'Avignon en 2009. Il y a une autre absente, c'est Ronnie Telkabetz, que vous avez révélée dans Alila. Si elle n'était pas partie trop vite, trop tôt en 2016, on est sûr qu'elle aurait eu une place hein, dans ce tramway, aux côtés de Yael Abekassis, de Yuval Sharf, qui est l'héroïne, ou qui était déjà l'héroïne de votre Anna Arabia. Ces visages féminins, qui sont visiblement aussi si importants pour vous, ils montrent toute la palette aussi, toute la différence de cette société israélienne aujourd'hui. Et on n'a pas cité Noa qui est en ouverture du film, la chanteuse.
Non, c'est-à-dire israélien et palestinien, parce que je crois que même la libération des femmes et aussi dans les sociétés arabes et palestiniennes est très nécessaire et important. Et je suis été très touché par le grand talent d'actrice palestinienne, Maïssa Abdelhadi, Lami Samar et des autres, Mourad Hassan, et qui sont partagé cette plateau, qu'effectivement, le rapport amical qui était construit sur le plateau était déjà un projet à part, mais représenté par le film. C'est-à-dire qu'il faut que l'art ou le cinéma produit des événements ou des occasions de créer cette rencontre qui devient plus et plus rare.
Il nous reste quelques minutes juste pour vous faire entendre une voix qui vous est chère, celle d'Albert Camus, extrait d'une archive Ida de 1958.
Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue, où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire, mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration, elle sait qu'elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance.
Autre film bouclé l'an passé, Lettre à un ami de Gaza, qui prend son titre de celle écrite par Albert Camus en 1943. Quatre acteurs, deux Palestiniens, deux Israéliens, reviennent aux sources de la crise israélo-palestinienne à travers des textes de grands auteurs comme Darwish ou Smilansky, Amos Gitai. Il est là aussi, ça c'est un concentré, presque un condensé de tout votre cinéma, dans ces mots que vient d'avoir Albert Camus, empêcher que le monde se défasse.
C'est j'adore Albert Camus parce qu'il est tellement sage, comme il parle aussi de décolonisation, qui est un sujet qui va exister dans les futurs des rapports israélo-palestiniens. C'est-à-dire, s'il le fait d'une façon trop brutale, alors les Algériens ils ont réussi de virer tout le français, les sadistes, les tueurs, etc. Mais aussi les intellos, les gens qui aimaient vraiment l'Algérie, etc. Et il faut qu'il y ait toujours l'autre qui existe dans chaque société. C'était le rôle traditionnel des Juifs dans les sociétés d'Europe et Afrique du Nord. Et je trouve qu'il faut qu'il y ait l'ordre. Il faut que dans chaque société, l'ordre existe et il respectait. Il contribuait à améliorer les human rights. Et j'ai adoré les textes d'Albert Camus. D'ailleurs, une version théâtrale de cette lettre à mon ami de Gaza va être première mondiale aux États-Unis. Et plus tard dans le Festival d'automne et Théâtre de la Ville à Paris.
Merci beaucoup Amos Gitai. Un tramway à Jérusalem sort en salle demain. Votre livre, La caméra est une sorte de fétiche, sort chez Fayard demain également. Et Lettre à un ami de Gaza sera bientôt diffusée sur Arte, mais on n'a pas encore la date. Merci beaucoup Amos Gitai. Merci.